tout cas, c'est oui, c'est, enfin, notamment la dimension atelier théâtre, peut-être, et qui est très liée aux réseaux sociaux. Alors, je vais vous faire une propos, enfin, c'est vraiment très aérien là, ce que je vais vous dire, mais c'est moi ma manière dont je plutôt sur un mode assez intuitif, ressens les transformations, on pourrait dire, culturelles qui sont liées aux réseaux sociaux et du coup, qui sont les conditions de leur utilisation et pour les publics hyper engagés et peut-être, mais parce que votre question en fait c'est la vraie grande question, pour les publics qui n'y sont pas, et là c'est beaucoup, on sent que tout est d'emblée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Moi, alors, pour le dire rapidement, mon argument, qui était un argument fait avec la danse, et je pense que la danse est en meilleure situation que le théâtre, pour ça. Mais elle donne des résultats pires. Hein, enfin, c'est que ce qui joue dans les réseaux sociaux, ce dont on a parlé, c'est un phénomène appelé expressivité. Hein, c'est-à-dire que l'individu doit produire sa singularité. Et d'où l'affiche personnelle est centrale. Alors, c'est vrai qu'on a, moi je vois pour la danse ou pour l'opéra, il y a des forums hyper spécialisés, l'interface est très moche, etc. Mais les gens sont tellement mordus qu'ils discutent dans des sites absolument improbables de web, parce qu'ils sont mordus. Mais là, on touche le public des éclectiques hyper, enfin ils sont même plus éclectiques tellement ils sont fans, hyper spécialisé, mais pour le reste, pour avoir de la participation, même sur un blog du théâtre, etc., il faut qu'on rende quelque chose à la personne. Voilà. Et du coup, ce qu'a inventé le réseau social, c'est qu'elle lui a rendu la fiche personnelle. Donc la fiche, c'est un lieu de construction de soi, c'est un lieu d'affirmation identitaire, c'est un lieu dans lequel on accumule toute une série de signaux sur soi, ce qu'on a dit, ce qu'on a aimé, ce qu'on a montré. Et donc le truc très individualiste, hein, là on vend individualiste, voilà, sans autre jugement, mais c'est que on ne va pas participer à un débat, enfin on ne va participer à un débat public type espace public avec de très fortes motivations, beaucoup de capital culturel et dans des conditions extrêmement rares et socialement. En revanche, on va sur sa page Facebook beaucoup plus facilement se montrer, se construire, changer sa photo de profil, raconter ce qu'on est en train de faire, discuter avec les amis et, quand on a été au théâtre, le dire « Ah, oh, c'était super, j'ai adoré, non, on n'y va pas, c'était très bien, etc. » Tous ces petits signaux conversationnels que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui se joue de façon assez centrale autour des formes de l'expressivité, de l'expressivité des individus, et c'est ça le cœur des réseaux sociaux. Donc s'il y a un réseau social du théâtre à faire, et on le voit bien, c'est un réseau social dans lequel on va pouvoir donner une page aux individus pour qu'ils expriment leur structure des goûts dans le monde du spectacle vivant. Ce qui pose aussi des problèmes, parce qu'on le voit, le livre l'a fait, hein, et ça marche pas mal. Hein, ça marche pas mal auprès, pas de vos publics, mais des publics spécialisés, etc. On met sa collection, hein, on met sa bibliothèque virtuelle, on montre tous les livres qu'on a lus, Babelio, Library of Things, etc. Et finalement, on va se mettre à échanger parce qu'on a produit son identité culturelle à travers les livres qu'on a aimés, pas aimés. Et du coup, on va commenter les choses et ça va produire une partie de la structure d'une communauté qui est organisée autour du livre. Donc, il y a cette forme d'expressivité qui est éventuellement possible. Mais le livre a pu le faire parce qu'il y a un truc unifié qui est le numéro ISBN, que les livres, quels que soient leurs éditeurs, on peut les regrouper. Moi, j'ai l'impression que dans le spectacle vivant, évidemment, vu du point de vue du spectateur, son identité, c'est pas simplement encore que ça mettrait un seul théâtre, ça va être plein de théâtres, de spectacles, etc. Donc, c'est pas, il faudrait qu'il y ait une sorte de mutualisation un peu générale de la possibilité de produire les signaux culturels sur sa propre base. Mais moi, ce que je voulais dire pour pousser mon argument, alors, qui est un argument un peu sophistiqué, qui marche pas mal pour la danse, c'est que dans cette question d'expressivité et dans la transformation culturelle qu'on a, qui a été très bien observée dans les travaux, hein, notamment sur, on ne dit plus amateur. Hein. Autrefois, Olivier Donat, dans son enquête pratique culturelle, il disait les pratiques amateurs. Alors, les pratiques amateurs, c'était, pour le théâtre, j'ai regardé, c'était 3% de la population française dans les enquêtes 76 faisait du théâtre amateur. Non, c'est 6%, je crois. 3 ou 6. Je vous retrouve. Voilà, écrivain, conte d'auteur, peintre amateur, etc. Il y avait ces pratiques amateurs qui étaient là. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même il y a une expressivité diffuse, on dira, dans nos sociétés, qui font que sur toute une série d'activités dites artistiques, hein, mais qui vont de la photographie à l'écriture, etc., on a en gros 25 à 30% de la population qui font des choses. Hein. Alors après, on juge la photo, ça peut être un peu n'importe quoi, mais ils font des choses. Hein, voilà. Donc on n'est plus dans un petit noyau de la population française qui a des pratiques amateurs, on est dans un désir et des attentes assez généralisées, dans lequel, pour s'affirmer comme individu, il va falloir montrer qu'on a des activités créatives, hein, et qu'une partie des réseaux sociaux, ils accueillent cette activité créative déjà. Alors moi, ma question centrale, hein, on arrive au point, c'est comment cette activité créative, elle s'associe au monde des vrais, alors je dis pas vrai, hein, des créateurs professionnels, des créateurs, qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce que c'est deux mondes complètement différents ? Est-ce qu'on peut les articuler ou pas ? Alors, dans le monde de la danse, hein, la danse, c'est une pratique sociale incroyablement répandue. Alors, c'est la danse de boîte de nuit, c'est la danse de bal, c'est des activités corporelles différentes. Bon, le monde de la danse contemporaine et le monde de la danse industrielle, on va dire, hein, la danse voilà, des boîtes de nuit, n'a que des rapports assez compliqués. Hein, et je serais tenté de dire qu'ils n'ont absolument pas de rapport. Ceci étant, il y a des moments d'articulation. Alors ces moments d'articulation produisent dans le numérique des choses qui peuvent être très riches. Alors moi j'ai beaucoup regardé, parce que c'était assez riche, l'expérience qu'avait fait Anna Teresa de Kersmaeker avec Anna Danst Rosa, là, Rosa Danst Rosa, ou Beyoncé, hein, je vous rappelle l'histoire, donc Beyoncé avait repris dans un clip, sans le dire, une choré de Rosa Danst Rosa de Anna Teresa de Kersmaeker. Kersmaeker a très bien répondu, c'est-à-dire qu'elle a commencé par protester, puis après elle s'est dit, bah, finalement c'est très bien, hein, donc voilà, c'est très bien, on met en circulation des formes, hein, je pense une grande partie, en tout cas pour la danse, pour le théâtre aussi, on met en circulation dans la société des formes. Jusqu'à quel point on veut que ces formes soient aussi reprises dans la fabrique de l'individu contemporain qui cherche lui aussi à s'exprimer en montrant des signaux culturels. Est-ce que les formes culturelles des créateurs reviennent dans les formes ordinaires de ces pratiques expressives ordinaires. Alors, De Kersmaeker a monté un site, elle a expliqué et détaillé la chorégraphie de Rosa Danst Rosa, de façon très précise, etc., montré les gestes, etc. Et puis elle a dit, refaites-le. Hein. Et il y a eu plein d'écoles de danse, mais aussi de gens absolument ordinaires qui se sont filmés en train de refaire la chorégraphie de Rosa Danst Rosa. Ça a produit toute une série de refabrications individuel, mais mis dans des espaces collectifs extrêmement variés, très originaux. Hein, voilà. Et il y a 500, 600 vidéos qui ont été faites et remontées sur le site. Donc là, on a une forme d'avant-garde qui redescend vers les individus, qui leur permet de se réexprimer et de se mettre en circulation. Bon, moi, je crois que c'est très rare, ce genre de dispositif. En même temps, si on le regarde d'un œil d'anthropologue de la culture, c'est le cœur même des formes de la circulation culturelle dans nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une partie des gestes qui nous permettent de nous fabriquer comme individus sont des formes qu'on a reprises à d'autres endroits, beaucoup de l'industrie culturelle de masse, mais de temps en temps de l'industrie des avant-gardes esthétiques, et notamment quand les avant-gardes esthétiques, comme de Kersmaeker et Beyoncé, influencent elles-mêmes les industries culturelles de masse. Et moi, je pense qu'il y a un intérêt majeur à essayer de détecter où sont ces modes de circulation de forme et de format dans les reprises qui sont faites par les publics, parce qu'elles sont en fait le lieu de quelque chose. Alors là, je donne, c'est ma propre lecture, et là je vous le fais de façon très sommaire, mais moi je crois que ce qui se joue dans l'expressivité du web social, des réseaux sociaux, et d'une certaine partie, et je dis bien une certaine partie, pas tout le monde, des esthétiques contemporaines, du spectacle vivant, se joue autour de la notion de protocole. Et que le protocole est le voilà, en tout cas pour une partie, je ne vais pas dire tout le monde, mais c'est-à-dire de trouver des formes dans lesquelles on va pouvoir enfermer des gestes qui ne sont plus forcément des gestes virtuoses de la création, mais qui vont resignifier la vie ordinaire des individus. Alors, on dit, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais Jérôme Bell est un exemple typique de protocolisation de gestes et d'activités très ordinaires. Or, si on regarde, là, comme sociologue, des pratiques numériques, les gens, quand ils fabriquent leur page Facebook, ils fabriquent des protocoles. Hein, et c'est fascinant. J'ai des noms. Alors, c'est des micro-protocoles, hein, c'est des formats expressifs qui sont extrêmement différents. Mais je sais pas, moi j'ai dans ma page Facebook, il y a une fille pendant un temps, elle mettait 20h11 tous les soirs. Son statut c'était 20h11. Donc elle a un protocole réglé, tous les jours je mets 20h11. Voilà, etc. Et moi je collectionne tous ces petits jeux. Alors, vous savez, tous les trucs viraux qui circulent sur Internet, donner la liste des 10 livres, 10 trucs. Bon, qu'est-ce que c'est? La plupart des mèmes sont en fait des protocoles qui se mettent en circulation, dans lesquels chacun va utiliser une forme qui est une forme publique et qui circule, mais dans lequel on va glisser sa personnalité. Donc c'est exactement ce que fait Jérôme Bell sur scène, c'est-à-dire qu'on donne des règles et puis on met un individu qui utilise ces règles pour manifester et s'exprimer. Beaucoup de pages Facebook peuvent être lues comme ça. C'est-à-dire, moi, j'avais, alors j'ai pas de slide, mais j'ai des exemples comme ça de gens qui prennent leur photo Facebook. Ça va être moi en train de faire la pochette d'un disque de Bachung allongé sur l'herbe. J'ai oublié le titre. Donc, beaucoup des manières de se coder, de s'exprimer soi-même sont en fait des reprises qui sont faites comme ça. Et moi, alors je dis ça, c'est tellement général ce que je suis en train de dire que ça va vous sembler absurde. Mais moi, je pense qu'une des manières dont il faudrait réfléchir à cette mise en circulation du spectacle vivant, c'est de voir quel est le genre de forme qui permet aux individus pas d'être simplement le spectateur silencieux qui achète son billet, etc. Parce qu'ils demandent autre chose que ça. Ils demandent ça, hein, ça c'est, ils demandent le noir, la salle, les 2 heures dans lesquelles on n'est pas dérangé par autre chose. Mais ils demandent aussi que finalement le spectacle lui ait amené quelque chose qui va ensuite resservir à produire son expressivité. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'Internet, mais l'Internet des réseaux sociaux est le lieu dans lequel on accueille ces individus qui essayent de se fabriquer en fait en empruntant des formes un petit peu partout. Alors, moi, il me semble que d'une certaine manière, pour la danse, il y a beaucoup de choses à imaginer, d'expressions corporelles, il y a beaucoup de formes esthétiques qui sont en proximité avec ça. Je ne sais pas pour le théâtre, mais il y a quand même une question majeure là que j'aimerais vous adresser, c'est qu'il y a quand même toute une gamme du théâtre amateur, des ateliers de théâtre, des expressions, etc. Quel rapport ont ces gens pour lesquels le théâtre est une activité personnelle, identitaire, et les spectacles des grands créateurs? Est-ce que les grands créateurs s'en foutent complètement et puis passent à côté du train? Est-ce que ça s'articule mieux? Moi, je ne sais pas, moi j'étais que 2 fois dans ma vie à Avignon. J'ai toujours eu l'impression quand même qu'il y avait, entre le in et le off, il y avait la proximité spatiale, mais alors aucune communication entre ces deux univers. Bon, ça me semble assez mystérieux, assez intrigant en fait, voilà. Et c'est des, oui, c'est des pros, oui, c'est sûr. Alors c'est des pros méprisés par le... Oui, quand même.
Maintenant, il y a vraiment enfin, il y a même des gens dans le in qui jouent une année dans le in, l'année d'après dans le off. C'est vrai que ça s'est un peu enrichi, on va dire.